Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah.
La Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Bienvenue dans C'est de la locale, il est 18h et nous sommes en direct jusqu'à 19h. Comme d'hab, je suis avec Rémi.
Salut.
Au programme, c'est comme d'habitude, des actus, de la musique, des interviews. Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon et sur 90FM dans le reste du monde. J'espère que le monde entier nous écoute. Sur notre site internet radiopulse.fr, vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux comme d'hab, Insta, Discord, Facebook. N'hésitez pas à partager et commenter nos publications Facebook si vous voulez gagner des albums.
C'est toujours ça de prix.
Toutes les actus, les albums à gagner en plus sont dessus. Et ce soir, quelle interview, Rémi ?
Eh bien écoute, la première interview que nous allons vous diffuser est celle... Je suis désolé, je suis un peu malade. Est celle d'un groupe qui s'appelle Manhattan sur Mer. Un jeune groupe qui a débuté ses armes en 2020. Qui est un groupe de pop originaire du Havre. Super. Sur ce, on vous laisse avec l'interview. Comment le groupe s'est formé ? Depuis quand le groupe existe ?
Alors, officiellement, moi, j'ai commencé en solo en 2018, été 2018, quand j'étais en voyage à l'autre bout du monde. Et ensuite, c'est en rentrant au Havre que j'ai rencontré Flo lors d'une soirée de fête de la musique en juin 2019. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à répéter à deux, jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Et pourquoi avoir décidé de ne faire que de la musique en duo ?
Alors, le format n'existe pas qu'en duo. Moi, je continue de jouer tout seul. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir des chansons qui puissent être jouées en guitare-voix et voilà, et également en duo avec une batterie et puis plus tard avec d'autres instruments. Voilà, ça, c'est un projet qui est en cours. Et voilà, donc c'était un choix pour avoir une rythmique. Pour moi au départ, j'ai toujours voulu que ce soit un groupe, donc ça commençait par avoir une batterie et ça fonctionne plutôt bien à deux.
Ok, vous avez sorti un EP récemment intitulé Four Girls avec des titres de chansons de prénoms féminins, Sandy, Maddie, Jenny et Melody Norton. Comment expliquer ce choix artistique?
Et c'est une très bonne question. Je me rappelle plus trop de d'où c'est venu. En fait, je pense qu'au départ, ma première chanson en français, c'était Sandy, que j'avais commencé à écrire pareil en voyage. Et c'était un petit hommage à une chanson des LLAS que j'aime énormément, qui s'appelle Sandy aussi. Donc j'ai voulu faire ma propre chanson. Et à partir de ce moment-là, ensuite, je pense que la deuxième, ça a été Maddie, qui est une jeune femme que j'ai rencontrée en Australie. Et donc j'ai commencé à faire le lien Maddie, Sandy, et puis voilà, je me suis inspiré d'autres choses pour écrire les deux suivantes. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça marrant d'avoir quatre prénoms féminins et puis il s'est posé la question des titres qu'on voulait sortir sur l'EP, parce que moi j'avais essentiellement de l'anglais à l'époque et voilà, c'était les seuls titres en français qu'on avait au départ, donc ça marchait bien. Et puis Four Girls, ça fait un petit jeu de mots, voilà, on essaie de, enfin c'est plutôt bien, ça s'est plutôt bien goupillé en fait.
Ok, et comment s'est organisée la composition et l'enregistrement de cette EP?
Alors, très simplement, donc moi c'est des chansons que j'ai composées, que j'ai écrites en guitare-voix, en acoustique, et ensuite quand j'ai rencontré Flo, on a commencé à les bosser en duo, en répète, donc guitare électrique et batterie, et on est arrivé comme ça en studio chez Nico Brusque dans la Creuse. Donc on est arrivé avec ces quatre chansons qu'on jouait en répète, et à partir de ce moment-là, donc on les a enregistrées en guitare batterie en live chez Nico, et on a rajouté ensuite voilà des instruments, des claviers, des secondes guitares, des voix, etc. Donc c'est en fait finalement le mix s'est fait en studio en 4 jours, 4 chansons en 4 jours, c'était assez rapide, assez efficace.
Ok, et comment est-ce que vous avez vécu cette crise du Covid-19?
Bah là, pas très bien. Ça commence à être vraiment long. Au départ, ça allait, et puis là, c'est vraiment compliqué parce que déjà pour l'inspiration, c'est très compliqué d'écrire de nouvelles choses qui soient un peu joyeuses et qui nous fassent penser à autre chose. Et puis évidemment pour le live, parce que nous on compte énormément là-dessus, et voilà, on a aucune date depuis le mois d'octobre. Heureusement, on a eu un petit break cet été, on a pu jouer à droite à gauche, mais depuis le mois d'octobre, on n'a plus rien, les salles de répète sont fermées, donc ça nous laisse quand même du temps pour faire de la maquette, de la pré-prod, de nouvelles chansons, pour pouvoir voilà, aller en studio, les enregistrer bientôt, en espérant que tout ça reprenne. En tout cas, on essaie de garder le rythme de travail et puis de ne pas perdre... De pas perdre l'envie, quoi.
Ok. Et dans votre bio Bandcamp, vous dites « Le groupe rêve d'ailleurs d'avant en promenant ses mélodies sur le chemin de la pop romantique chauffée par les derniers rayons de soleil ou Indian Summer Pop, celle qui résonne avec When the Summer Almost Gone. »
Ouais.
Quel est le message derrière cette bio?
Eh ben, le message est assez simple, c'est-à-dire qu'on est parti sur un style de musique, enfin on aime beaucoup tout ce qui est surf pop, surf musique et en général, c'est vrai qu'on était parti sur un style qui était plutôt summer pop comme on dit, mais avec cette touche de nostalgie, donc j'ai trouvé ça marrant de le détourner, de dire que voilà, ça ressemblait plus à de la pop de l'été indien, c'est-à-dire voilà, alors un été normand, un été pas très chaud, des belles journées qui arrivent au mois de septembre, plus qu'au mois de juillet. Voilà, c'était vraiment histoire d'avoir une espèce de summer pop assez gay, mais avec quand même cette pointe de nostalgie qui fait que voilà, c'est plus de la pop qu'on écoute après les vacances, en repensant aux vacances.
Et tu trouves que la nostalgie est une émotion présente tout au long de votre musique ou elle vient par vagues ?
Elle est assez présente, il faudrait pas qu'elle le soit trop d'ailleurs, mais moi je suis assez mélancolique dans mon écriture et dans mes lectures et voilà, j'ai tendance à profiter des moments une fois qu'ils sont terminés, donc je pense que ça se ressent pas mal, ouais, dans la musique qu'on écrit en ce moment, et puis d'autant plus cette année, on vit plus dans les souvenirs que dans le temps présent finalement, pour essayer de se raccrocher à quelque chose donc voilà, mais rien de non plus de triste dans tout ça quoi. Moi je pense que c'est un peu le bonheur d'être triste comme disait Victor Hugo, je crois. Voilà,
votre musique, en gros, si je grossis le trait, c'est comme si on revoyait des souvenirs d'été et que ça nous rendait plus heureux que malheureux, en fait.
Exactement. Ah oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment assez joyeux en fait. C'est repenser à ces bons moments quoi.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez sorti un clip de votre titre Maddy, qui est un clip quand même assez décalé, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres clips issus de l'EP qui vont arriver ?
Alors malheureusement, je ne pense pas. Ou alors, ce sera plus tard, mais. Voilà, on avait eu le budget pour faire un clip, donc on avait choisi Maddy. Et je pense que le prochain clip sera pour la prochaine sortie. En fait. On a déjà une chanson qui va bientôt être prête à sortir et on réfléchit déjà au scénario du clip qui sera, je pense, à peu près dans le même univers, dans le même thème. Sûrement filmé par le même réalisateur et ce sera aussi décalé je pense et aussi comment dire, vintage un peu.
Voilà. Est-ce que vous faites quelque chose à côté de la musique?
Non. Alors Florian est intermittent depuis quelques années. Moi je tends à le devenir. Alors je travaille l'été quand même en tant que saisonnier, mais à part ça non, on se consacre à 100% à la musique.
Ok, ça marche. Quelles sont vos plus grandes inspirations musicales?
Ben un peu comme tout le monde, les Beatles. Non, après avec on écoute beaucoup de choses, tout ce qui s'est passé dans les années 60, on aime beaucoup, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, voilà, c'est vraiment ce qui nous inspire le plus, hein, la musique qui résonne, la musique qui craque un peu. Moi, j'ai appris j'ai suivi l'éducation Neil Young depuis mon adolescence. Et puis après, je me suis vraiment ouvert à toute cette pop californienne, anglaise. Et puis encore aujourd'hui, voilà, je vous parlais des Alala tout à l'heure, mais il y a énormément de groupes aux États-Unis, enfin surtout en Californie, même en Australie, que j'ai pu découvrir, qui font cette espèce de pop garage, voilà, un peu rétro, voire yéyé. Donc c'est vraiment ce qui nous inspire avec Flo quoi.
Ok, je vais passer à des questions plus légères parce que c'est ce que j'aime faire en fin d'interview.
Ouais.
C'est plus ludique. Si maintenant tout de suite tu étais largué sur une île déserte et que tu ne pouvais prendre que 3 albums, tu choisirais lesquels et pourquoi?
Ah, la fameuse question. Eh ben, je pense que je choisirais déjà, évidemment, Harvest de Neil Young. Je pense que c'est un album. Voilà, c'est vraiment l'époque du collège où je suis passé du métal, enfin du rap français au métal français, et finalement mon père m'a offert cet album et j'ai, à partir de ce moment-là, je l'ai plus jamais quitté. Après, je choisirais le premier album des Alalaz, qui est sorti en 2013, je crois, qui est vraiment un album dont je n'arrive pas à me lasser, voilà, de A à Z, toutes les chansons me touchent énormément, que ce soit dans la prod et tout ça, et dans l'ambiance, quoi. Je le prendrai avec moi, c'est sûr. Et le troisième, bah, je pense que je prendrai Four Girls. Parce que c'était un petit rêve qui s'est concrétisé. Donc forcément, je partirai avec sur une île déserte.
Ok. La collaboration musicale de vos rêves.
La collaboration musicale de mes rêves.
Artiste décédé ou non.
Ah, il peut être décédé, d'accord. Je pense que je dirais Leonard Cohen. Mm-hmm. Je m'assieds bien au coin du feu avec lui pour qu'il me raconte un peu sa vie et pas forcément qu'on fasse de musique, mais en tout cas qu'on discute.
Mm-hmm. Et du côté des vivants, ce serait qui?
Du côté des vivants, qu'est-ce que je pourrais dire Kevin Morby.
D'accord, ok.
Songwriter actuel que je suis depuis longtemps, du coup, que j'adore et qui a l'air très marrant en plus. C'est vraiment. Voilà, j'aime bien la simplicité dans laquelle il fait de la musique et je pense que c'est. Ouais, ça me ferait plaisir de faire un petit buff avec lui.
Ok. Si vous pouviez jouer n'importe où maintenant, là tout de suite, vous iriez où?
N'importe où?
N'importe où.
je pense que j'irais au Trianon, qui est une de mes salles préférées à Paris.
Ok.
Voilà.
Et la dernière question, on va dire un petit peu plus légère, c'est si tu pouvais te dire quelque chose à toi plus jeune, tu lui dirais quoi?
Je dirais bouge-toi le cul et mets-toi au solfège.
Ça marche, ok. Pour terminer, est-ce qu'il y a des projets pour 2021 et Manhattan-sur-Mer?
Ouais, donc là on maquette des nouvelles chansons que je suis en train d'écrire au fur et à mesure. On est chez Florian et on maquette ça avec du bon matos pour avoir des bonnes pré-prods pour aller en studio. Et puis la formule va augmenter pour 2021, c'est sûr. Pour les concerts, on sera plus nombreux. Très bientôt.
Et du coup, c'était notre interview avec le groupe Manhattan sur Mer. Donc, grand merci à Hector qui a répondu à toutes mes questions. Si tu nous écoutes, on te fait des gros bisous.
Et tout de suite, on va passer à leur titre qui s'appelle Madi.
Recevra-t-elle cette lettre? Sur son île déserte, le vide en ville résonne depuis qu'elle a quitté Byron. Vers son hiver, vers mon été, en marche arrière, vers ce qu'on était. Ah.
Cette radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
Et chaque semaine, nous avons des partenariats Ferrarock, qui est la fédération des radios associatives des musiques actuelles, parce qu'on peut plus dire rock, metal ou autre chose. C'est une association de loi 1909, faudrait 1901. Faudrait peut-être qu'on fasse un article sur la loi de 1901, bref, qui est née au début des années 1990. Aujourd'hui, 29 radios associatives en font partie de la Ferrarock, dont Radio Pulse, les meilleurs, mais aussi nos copains de Radio 666 à Caen, engagez-moi, et Radio Béton à Tours, engagez-moi. Mais aussi plein d'autres radios encore en France, et aussi chez nos amis belges et canadiens. C'est pas Thibaut, ça ? Et le premier album qu'on va vous faire gagner, c'est 30 Minutes Off du groupe Music on Hold, qui sortira le 5 février, qui est sorti, pardon, du coup, février 2021 sur Born Bad Records. Waiting for the Sound, une posture d'attente qui n'aura pas eu le trio parisien en signant sur le label Born Bad. La musique de Music on Hold est en effet simplement arrivée avec sa démo sous le coude, remplie de soleil contagieux, il n'en faut parfois pas beaucoup plus pour convaincre. En 10 titres sacrément bien troussés, les textes traitent de sujets de sciences sociales, questionnent notre libre arbitre, racontent la collectionnite des fans de vinyle, rêvent d'un retour au monde d'avant, même si la fin de soirée sent la clope froide et la fatigue alcoolisée. Chose qu'on a tous très bien connue si on a un jour passé le cap des 16 ans. Et tout de suite, on vous laisse avec leur titre No Eagle Dares.
I'm
C'était le titre No Eagle Dares du groupe Music on Hold de leur premier album 30 Minutes Soft qui est sorti le 5 février 2021 sur le label Band Bad Records. Donc si jamais vous avez aimé, foncez acheter l'album.
Exactement. Et ce soir, on vous passe une deuxième interview. C'est l'interview d'un groupe qui nous vient de Rennes. Ils viennent de sortir leur deuxième album qui se nomme Take It Out et c'est le groupe The Bad News. Vous venez de sortir votre deuxième album qui se nomme Take It Out. Donc j'aimerais savoir tout d'abord comment s'est formé le groupe.
Alors notre groupe, c'est quand même une vieille histoire. En fait, on existe depuis 2010 avec Arnaud et moi-même Michel. Donc Arnaud qui est à la batterie et moi-même à la guitare.
Okay.
Notre premier album, en fait, il est sorti en 2010.
Mm-hmm.
Voilà, sur les labels Close Up Records, c'est un label parisien.
D'accord.
Okay. Et Stencil Trash Records, qui est un label allemand.
Ok. Et du coup, vous étiez deux, et maintenant vous êtes trois, il me semble, c'est ça?
Et maintenant, on est trois, ouais. Depuis 2016. Okay. 2016, on a Antoine qui, en fait, joue de la guitare et de l'orgue. Voilà. Comme ça, il switch sur certains morceaux.
Mm-hmm.
Et sur l'album, on a deux ou trois morceaux à l'orgue. Voilà, on avait envie d'un troisième musicien pour gonfler un petit peu le son et être un petit peu plus à l'aise au niveau musical, en fait.
Et pourquoi vous avez décidé de vous appeler The Bad News?
Bonne question, parce qu'on trouvait que ça sonnait bien,
okay,
comme nom de groupe. On a fait des recherches, on a cherché plein de trucs en mettant des mots à la place des autres et puis on trouvait que ça sonnait bien.
Ok. Et du coup, comment s'est déroulée la sortie de cet album, du dernier album?
Alors, la sortie, en fait, on a quand même pas mal bossé. Une fois qu'on a, recruté Antoine comme troisième musicien, on a tout de suite commencé à travailler des nouveaux morceaux.
Mm-hmm.
Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps quand même. Et en fait, ensuite, on a enregistré en mars 2019 à Toulouse, chez Low Spider.
Okay.
Qui a un studio d'enregistrement très spécifique, analogique, on enregistre sur bande, et lui-même il a enregistré pas mal de groupes, donc on a décidé d'aller enregistrer chez lui à ce moment-là.
Okay.
Et du coup, ensuite, le temps de recevoir les mixages et le mastering, on a tout de suite démarché les labels pour pouvoir avoir un label pour presser ce disque-là. Pour ne pas le faire en autoproduction, on avait vraiment envie d'avoir un label pour avoir un support et un réseau de diffusion et de distribution. Voilà, on a eu la réponse de Poche Records, qui est un label rennais.
Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et un deuxième label aussi, de Rennes aussi.
Et voilà. En fait, oui, en fait, en discutant, parce qu'on se connaît tous, en fait, sur Rennes, Banana Juice était partant aussi pour s'associer au projet.
Ok.
Donc du coup, on a deux labels qui est Poche Records et Banana Juice qui sont associés à notre projet pour sortir ce 33 tours. Et malgré la pandémie et l'arrêt de tout concert, on a quand même décidé de porter ce projet malgré tout, quoi.
Bah oui, j'allais justement vous demander, vous, comment ça vous a impacté au final dans l'enregistrement de l'album, sa sortie, etc. Est-ce que ça a repoussé des choses?
Ouais, en fait, l'album, en fait, on l'a enregistré en mars 2019, donc c'était un an avant le Covid, quoi, quand ça vraiment ça nous bloque. Mais si moi j'étais absent de juin à fin décembre 2019, donc du coup on n'a pas du tout joué pendant cette période-là, et janvier février 2020. Ben, la pandémie est arrivée et tout s'est arrêté, donc on n'a pas joué, on n'a pas fait de concert depuis mars 2019. Et là pour 2021, à mon avis, c'est plus que sûr, hein, c'est mort, quoi, pour jouer dans les bars et les clubs.
Là, pour l'instant, c'est foutu.
Mais voilà, nous Nous, nos morceaux, ils sont fraîchement sortis, ils sont prêts. On a quand même réussi à faire quelques répètes, à se maintenir. Donc voilà, on est prêts, quoi. On continue en fait à travailler malgré tout pour pouvoir voilà. Et puis là, on va peut-être réfléchir à peut-être faire des petits concerts d'appartement en acoustique, par exemple.
C'est cool, ça.
Voilà, okay. On va travailler déjà le son. On va essayer de voir un peu comment nous on arrive à jouer en acoustique. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver des solutions à apporter quand ça ira un petit peu mieux, on va dire.
Oui, il n'y a pas trop le choix. Et la composition, comment elle se passe? Vous le faites tout seul? Vous mettez en groupe? Comment ça se passe?
Ah oui, la composition des morceaux.
Ouais.
En fait, on répète une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Mmh. Et en fait, on improvise des trucs quand on se retrouve tous les trois en studio de répète.
Okay.
On prépare rien à l'avance. On se voit, on joue, on lance un riff de batterie, un riff de guitare et les morceaux, ils arrivent. Alors il y a des soirs où on est inspiré, on arrive à trouver des choses qui accrochent et qu'on aime bien. Et puis il y a des soirs où on trouve rien, on a plein d'aspirations, oui, on est fatigué, voilà, il y a que dalle. Et en fait, nous, on enregistre, on a, soit avec les portables, et moi j'ai un mini disque, donc on enregistre les morceaux. Une fois que on trouve que le morceau il nous plaît bien, on a un riff de guitare qui nous plaît, voilà, on enregistre le morceau et puis toutes les idées on les enregistre et puis au fur et à mesure on se dit bah là ça fait tant de morceaux, hop, on rétrécit et puis après on fait des structures musicales et ensuite j'essaye de trouver, comme c'est moi le chanteur, j'essaye de trouver une petite mélodie qui accroche, qui me plaît bien.
Mm-hmm.
Et au fil du temps et on retravaille les morceaux, voilà, on fait une intro, un couplet, un refrain, un solo, voilà, on fait des morceaux assez courts.
Okay.
Et ensuite on les réenregistre comme ça au fur et à mesure et on les chronomètre en fait. Quand c'est sur les portables, on a les temps qui défilent, donc on peut savoir combien de temps ils durent et du coup on prépare un set comme ça en fait sur nos portables.
Ok, mais c'est cool, vous travaillez tous ensemble, quoi. C'est bien.
Voilà, ouais, on travaille tous ensemble. Les idées, elles viennent quand on est tous les trois en répétition. Rien n'est prévu à l'avance, en fait. On fait tout en répétition, en fait.
Et moi, j'aimerais savoir s'il y a d'autres clips de prévu que celui qui est déjà sorti et disponible sur YouTube.
Ouais, justement, comme il n'y a pas de concert de prévu cette année, eh bien on va faire plus de clips. Ouais, on va essayer de. On en a un prévu, donc il faut juste qu'on cale une date avec la personne qui filme par rapport aux emplois du temps. Il y a le couvre-feu aussi qui est un peu embêtant. Alors est-ce qu'on fait un truc un peu clandestin, etc., en faisant attention quand même. Mais oui, ça c'est des petites choses qu'on va faire, ouais.
Okay.
Tout à fait.
Et du coup, pour celui qui est déjà sorti, comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée?
Alors en fait, il a été fait par un copain à nous qui s'appelle Laurent, c'est son surnom Mécano, qui fait partie d'une association qui s'appelle Les Bottines sur Rennes, qui organise des concerts, qui a déjà fait des petites vidéos de groupes de copains. Et c'est lui qui nous a proposé de faire un clip. Mais il avait trouvé l'endroit pour faire le clip. On avait envie de faire un truc assez rapide, assez simple, qui suscite pas beaucoup de temps de montage. Voilà, lui, il avait déjà les plans de montage. Donc voilà, on a fait ça avec notre copain, en fait.
Ok, bah trop bien. Pourquoi vous avez décidé de clipper ce titre-là et pas un autre?
En fait, c'est Laurent des Bottines, notre copain qui filmait, qui a choisi le morceau.
Ok.
Voilà. On lui a dit, bah écoute, comme c'est toi qui veux nous faire une vidéo, et en fait, il nous l'a fait gratuitement, en fait. On lui a dit, bah écoute, sur les 12 morceaux, bah tu choisis le morceau que tu préfères, quoi. Et nous, ça nous ira très bien.
Ok, bah trop bien.
Voilà, tout et... simplement.
Et c'est quoi vos influences musicales?
Alors, nos influences musicales, c'est énorme. On a chacun nos propres influences musicales, mais pour les bad news, on va dire que c'est plutôt le garage des années 60, par exemple, et puis le garage revival des années 80-90. Mais on aime beaucoup les Oblivians, Jack Oblivians, les Gorillaz, les Demolition Doll Rods, plutôt des groupes américains.
D'accord.
Minimaliste, voilà. Oui. Donc, parce que nous, on a deux guitares, une batterie, donc on aime bien les groupes minimalistes. Voilà, mais on adore des tas de groupes. Hein. Dans l'album, on peut ressentir pas mal d'influences, comme un peu de rockabilly, un petit peu de blues, avec une petite pointe de groove.
Bah, justement, hein, j'allais dire, comment vous définissez votre style musical?
Bah nous, notre style musical, il reste quand même garage punk, on va dire. Voilà. Et ce qu'on a réussi à faire, je trouve, dans cet album, c'est que c'est pas bourrin. Je trouve que c'est sautillant. On peut danser sur nos titres et les titres ne se ressemblent pas tous.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord là-dessus.
je trouve quand même. Mm. Donc voilà, c'est un challenge qui est quand même pas mal réussi. Voilà, on trouvait que avoir 12 morceaux et que les 12 morceaux se ressemblent au niveau du rythme, du chant, etc., bon, ça, à force, c'est peut-être un peu ennuyeux, quoi.
Et puis 12 morceaux, c'est beaucoup, en plus, faut avoir l'inspiration.
Ouais, 12 morceaux, ouais, c'est bien. Bah, en fait, en règle, avant, enfin, dans les années 90, 2000, les 33 tours, c'était plutôt 12-14 morceaux.
Oui.
Et là, dernièrement, les 33 tours, ça tournait plutôt aux alentours de 10 morceaux, quoi. Il y a quand même pas mal de groupes qui mettaient 8 ou 10 morceaux. Nous, on a quand même préféré faire l'effort d'en mettre un maximum, quand même. L'album, ouais, en fait, pourquoi on a choisi Take It Out? Parce qu'en fait, c'était... Alors, Patrice Poche, qui est en fait illustrateur, graffeur sur Rennes, c'est lui qui a fait la pochette. En fait, c'est lui qui fait toutes les pochettes sur son label. Et qui nous a demandé en fait de choisir un titre pour nommer cet album.
D'accord.
Et en fait, quand on a retracé un petit peu ce que je racontais dans les paroles là, des chansons, qu'il en ressort en fait, c'est que on cherche à sortir de Take It Out, c'est-à-dire sors-le, c'est-à-dire sors-toi de là, comment se sortir des tracas quotidiens, du travail quand on a marre, etc. En fait, voilà, c'est vraiment sortir de soi. Le thème principal de toutes les paroles de chansons qu'on propose. Et donc du coup Patrice il a fait cette pochette en fonction de ce thème là en fait.
D'accord. OK. Et ça marche bien, je trouve que la pochette matche
bien. Ça colle bien. Ça colle très très bien.
Est-ce qu'il y a une scène sur laquelle vous aimeriez jouer, si vous pouvez choisir n'importe laquelle dans le monde entier?
Ah ouais, est-ce qu'il y a une scène où on aimerait jouer?
Ouais.
Au Cosmic Trip à Bourges, quand ça aura lieu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Nous, on resterait plutôt en France, hein, mais aussi sinon, il y a des festivals aussi intéressants en Espagne, à Benidorm. À Rennes, on avait le Mondo Bizarro, ouais, enfin, des clubs, des festivals. Là, j'ai plus les noms en tête, mais...
Et sinon, est-ce que vous avez une collaboration que vous aimeriez faire avec le groupe?
Une collaboration avec... ouais, ça peut... Ça, je dis au hasard, ça pourrait être Dusty Mush. On aime beaucoup Dusty Mush.
Ok.
On aime beaucoup les Lullies. On aime beaucoup les Magnetics.
Oh, ça va faire beaucoup de collabs, là.
Voilà, enfin... Okay. Plein de... Voilà, en gros.
D'accord. Et... Est-ce qu'il y aura des projets à venir encore pour 2021 ou peut-être 2022?
Alors, les projets, en fait, on a encore 4 morceaux.
Ok.
Alors, fait, quand on a enregistré en mars 2019, on a enregistré 16 morceaux. Donc on a mis 12 sur le 33 tours qui vient de sortir.
Okay.
Et on en a encore 4 autres qu'on sortira, on va dire, fin 2021, on va dire.
Oh, cool.
Et on est en train de chercher un illustrateur qui veut bien nous faire la pochette. Voilà, on est en train de... On est en train de peaufiner ça, on a envie d'avoir une belle pochette pour ce 45 tours, donc voilà, le projet c'est ça.
Ok, c'est en réflexion alors. Eh ben super.
De faire un vidéoclip ou plusieurs, et puis de continuer à répéter quoi.
Ok, bah cool. Et on espère, si le Covid le permet, faire des concerts un jour, mais ça...
Ouais, c'est ça, on verra si ça se décoince en fin d'année quoi, on va voir comment,
on espère.
Comment ça se passe. On espère, ouais, carrément.
Et voilà, c'était l'interview du groupe The Bad News à l'occasion de la sortie de leur deuxième album qui se nomme Take It Out. On vous laisse tout de suite avec leur titre qui s'appelle Stop Messing Around. Voilà, c'était un titre de l'album qui se nomme... Rémi, est-ce que tu as retenu ? Non, c'est Take It Out de The Bad News. Voilà, oui. J'espère que vous avez aimé et courez écouter.
Bah oui, bien sûr, évidemment.
Donc aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2021 et il n'y a pas de journée mondiale. Super.
Ah ouais ?
Non, du Merde. Coup, de quoi on va parler ? Ben, moi, j'ai décidé de vous parler des pantalons.
Et pourquoi tu vas nous parler de pantalons ?
Parce que les pantalons, comme ça, tu dis « ouais, trop nul », mais en fait, c'est intéressant. Du coup, le pantalon, il a été créé par les Chinois, comme tout à peu près. Non, je rigole. Pour monter à cheval. Le pantalon est longtemps resté l'apanage des hommes. S'il était déjà l'un des symboles des révolutionnaires, le pantalon est aussi devenu l'emblème de l'émancipation féminine. Vous le saurez après. Donc, c'est plus qu'un vêtement au quotidien. Le pantalon a joué un rôle tout au long de l'histoire. Si l'on sait que certains hommes du néolithique portaient déjà ce qui ressemblait à des jambières 3200 ans avant Jésus-Christ, donc c'est pour vous dire que ça remonte à longtemps, le premier pantalon avec un entrejambe provient de l'antiquité chinoise conçu pour monter à cheval. C'est au 16e siècle.
Bravo.
que le pantalon fait réellement son apparition en Europe. Au Moyen-Âge, les hommes portaient des chausses, sortes de jambières jointes dans le dos. L'évolution de la mode amena ensuite les couturières à inventer la braguette, donnant naissance au pantalon lorsque nous connaissons aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus simple.
Ouais, c'est ouf.
À la Révolution, le pantalon devient un symbole politique. En 1788, les travailleurs en pantalon se baptisent les sans-culottes par opposition à la noblesse qui, par souci de mode, porte des culottes. Par souci de mode, bien sûr. Le pantalon devient un indispensable de vestiaire en 1830 seulement, notamment en Angleterre où il devient très rapidement le bas le plus porté par l'homme. Bien sûr, par l'homme. L'histoire du pantalon pour l'homme se décline ensuite en fonction des modèles et des coupes. Chaque symbole d'une époque est une mode, aujourd'hui emblème des tendances et des styles. Il n'est pas possible d'évoquer l'histoire du pantalon sans parler du rôle qu'il joua dans l'émancipation féminine.
Ah bon ?
Si les femmes persanes portaient déjà le pantalon, ce vêtement fut très longtemps réservé à la gente masculine. Durant la Révolution française, une loi oblige les femmes désirant à porter des pantalons à se déclarer à la police, carrément comme si on avait commis un crime. Le pantalon chez les femmes n'est toléré que pour celles qui faisaient un métier d'homme. Un métier d'homme quand même, hein, parce qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes apparemment.
Tout à fait, comme boucher ou soldat. Tu ne peux pas quand tu es une femme.
Donc en effet, le pantalon est d'une part un vêtement fermé, contrairement à la jupe qui souligne l'accessibilité du sexe féminin, les hommes vraiment. Cette loi a été votée par des hommes, c'est obligé. Le saviez-vous, le port du pantalon pour les femmes en France n'a été autorisé qu'en 2013 dans la loi. Bien sûr, il a été... le pantalon a été porté bien avant ça, mais dans les textes de loi, il a été enlevé que le 31 janvier 2013, très exactement. C'est finalement le sport qui permettra aux femmes de porter des pantalons. Les aviatrices et les cyclistes se montrent en public en pantalon, provoquant très souvent de mauvaises retombées médiatiques. Et c'est en 1930 que trois actrices choquent tout Hollywood en portant régulièrement des pantalons et même le smoking, démarrant ainsi la démocratisation du pantalon chez les femmes. À l'après-guerre, il est socialement accepté pour les femmes de porter un pantalon pour des activités de loisirs ou de jardinage. Et c'est en 1960 que le couturier Yves Saint-Laurent entérine définitivement la dictature de la jupe en Europe, faisant du pantalon pour femmes un véritable vêtement de mode que toutes s'arrachent. Le pantalon, c'est quand même très pratique. Après, les jupes, c'est très beau aussi, mais ce qui est important, c'est d'avoir le choix.
Oui, et puis c'est pas parce que c'est un vêtement féminin que les hommes ne peuvent pas en porter aussi.
Les jupes, oui, bien sûr.
Tout à fait.
Ça reste un autre débat. Donc même si en France depuis longtemps les femmes portent le pantalon, il y a certains pays où cela vient tout juste d'être autorisé. Le port du pantalon chez les femmes au Soudan par exemple était puni de 40 coups de fouet encore en 2019.
Ah ouais quand même, d'accord. Donc si jamais vous voyez une fille avec un pantalon qui habille, elle était là, ouah, il lui mettait 40
exactement.
Coups de fouet. D'accord. Mais c'est pas le Black Pearl quand même, c'est pas des pirates. Ils prennent pas des coups de fouet parce qu'ils portent un pantalon.
Merci.
Putain.
Si. C'est une femme qui porte un pantalon, mais tu te rends pas compte, mais c'est grave. T'imagines, genre...
Il y a des choses plus graves dans la vie, quand même, comme le cancer ou le Covid.
Ou être... Non, oui, vraiment, c'est très grave de porter un pantalon. À certaines époques, t'étais considéré comme un criminel, quasiment. C'est quand même grave, mais bon. Du coup... Pour tout ça, j'ai décidé de vous passer un titre qui s'appelle « Violence », qui parle des violences conjugales. C'est pas exactement... mais... féministe. Donc, on vous passe le titre « Violence » de Elliot Jane.
J'ai brûlé de l'or
Voilà, c'était le titre Violence de Elliot Jane, sorti de son dernier album qui se nomme Liberté Chérie. D'ailleurs, vous avez eu une interview de Elliot Jane la semaine dernière, je crois. Tout de suite, on va vous passer à la musicale.
La musicale.
L'amicale des radios musicales de Normandie
vous présente le local de l'étape.
Salut, c'est Mathieu d'Animal Triste. Je suis batteur de ce groupe de rock normand, plutôt basé à Rouen, même si certains de nos musiciens sont d'Évreux et un petit peu d'ailleurs. Nous venons de sortir notre premier album le 4 décembre sous forme de vinyle avec un petit CD à l'intérieur. Ce groupe en fait a été fondé après une soirée au Calife, le Calife qui est donc une salle à Rouen, après un concert. Et nous devisions avec Yannick, le chanteur, qui est aussi chanteur de la Maison Tellier, et Fabien, avec ce guitariste de Radio Sofa, et on se disait que voilà, qu'on avait du mal à entendre le rock qu'on aimait vraiment, celui qui venait de nos origines, à savoir Nick Cave, Les Doors, Black Rebel, Motorcycle Club et tout ça. Et puis on s'est dit que ce serait peut-être marrant d'essayer de faire la musique qu'on écoute vraiment, d'avoir envie de s'amuser. On s'est enfermé dans un petit local, on a commencé à composer d'abord sur l'ordinateur et puis on a été rejoint par Cédric, le bassiste, et de fil en aiguille se sont greffés Seb et David, donc Seb à la guitare et David au clavier guitare, et on a commencé à mettre au point doucement mais sûrement un set qui nous a semblé tenir la route. Enfermé dans un studio chez David Fontaine en février 2020, ce qui nous a laissé tout le premier confinement pour mixer cet album avec Étienne Kellou. C'était intéressant parce qu'on a eu vraiment l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. On était vraiment très loin, très reculés, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Et c'était un peu comme s'il y avait une espèce de guerre atomique, quoi. On est sorti du studio et puis voilà, le monde était pété, il n'y avait plus rien qui marchait. Et voilà, donc il y avait une ambiance de fin du monde qui était assez intéressante. Ce disque qui est un peu abrasif, un peu rock et qui était enregistré dans une énergie festive et joyeuse, même si la musique ne l'est pas, bien évidemment, marquera à vie puisque c'était vraiment la fin ou le début de cette nouvelle ère un peu sombre. Le disque est donc sorti le 4 décembre, donc il est un peu partout, sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, streaming, Fnac, enfin tous les magasins que vous imaginez. On en est fiers, on en est hyper fiers, voilà, c'est l'album qu'on voulait faire sans aucun compromis, sans regarder derrière, en avançant et en faisant cette musique qui est, je trouve, un petit peu pas assez éclairée aujourd'hui. Faire du rock, c'est pas être passéiste, loin de là, on avait juste envie d'avancer, de faire les choses comme elles nous semblaient, dans le bon sens et avec les bonnes personnes, donc... C'est un peu notre bébé électrique, ce premier album d'Animal Triste, on en est fiers.
Il est 18h56, j'espère que vous avez retenu toute l'histoire du pantalon.
Ouais, non.
Ah, super.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même comme histoire, quand tu te dis qu'un simple bout de tissu peut représenter bien plus qu'un simple bout de tissu. Exactement. Je vous laisserai sur ces paroles philosophiques. Oui. Je suis éclaté, mon cerveau c'est de la compote.
Ah mais c'est le Covid ça.
Oui mais quand je me mouche, il y a mon cerveau
on
qui part.
Fout.
Déjà que j'en ai pas beaucoup, il faut que je sauve les meubles quand même.
C'est vrai qu'il n'y en a pas du tout. Bref, ce soir, après nous, l'émission traitée de Maastricht. Exactement. Et juste après, vous aurez Pause Vélo à 20h. Nous, demain, on se retrouve pour une émission un peu spéciale. Une émission dans le thème princesse, non, je déconne.
Bon, ça peut y faire partie puisque c'est du domaine de la pop culture. Donc, techniquement, il y a aussi les princesses Disney dans la pop culture. Ça me fait penser que je suis en train de préparer un quiz avec mon nez bien bouché, là. Et il faudrait peut-être que je fasse une question par rapport au Disney Princess.
Super. Du coup, demain, il y aura un quiz. Et tout ça sera sur le monde de la culture geek, la culture pop, c'est ça ?
Culture pop, je
culture
pense.
Culture pop. Ok, donc demain, émission spéciale culture pop.
Donc on sera avec, pour faire le teasing, on sera avec Teddy de Geek & Collect. Nous serons avec notre très cher confrère Thomas. Et peut-être un invité spécial.
Ok, super. Et bah du coup, bonne soirée, à demain.
Bisous.
I can't look at you in the eye. Don't try to fool me with your fucking lies. Ooh, baby, what you black and green? Ooh, baby, 'cause I can't scream. You can't keep me in your arms. I'm all right, and kinda hard. Oh, did you ever fall?